France, Algérie, anatomie d'une déchirure.
Près de deux siècles après la conquête de l'Algérie par la France et 62 ans après la décolonisation, les relations entre la France et l'Algérie demeurent à vif, les mémoires tourmentées et instrumentalisées. Quelle est l'histoire des relations entre la France et l'Algérie? L'histoire d'une plaie impossible à cicatriser?
Thomas Negaroff.
Une série en 6 épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'historien Benjamin Stora.
Épisode 1. 1830, la conquête.
Abdiquerons-nous? Non, messieurs, ce serait renier notre mission et notre gloire, ce serait mépriser le sang de ces braves que nous avons sacrifiés dans cet assaut donné à la barbarie. Lamartine, le 2 mai 1834. Bonjour Benjamin Stora.
Bonjour.
On va ensemble, tous les deux, raconter cette histoire des relations, cette guerre sans fin, cette passion entre la France et l'Algérie. Et pour ce premier épisode, tu connais par cœur cette histoire, tu es, je crois, le plus grand spécialiste français du sujet. J'ai commencé en 1834 et pas en 1830, date de la conquête. La France est en Algérie, donc depuis 4 ans, quand Lamartine prononce ses propos. On va revenir sur les modalités de la conquête de 1830, mais pourquoi est-ce qu'en 1834, Lamartine exprime la crainte d'une forme d'abdication? Est-ce que ça veut dire que la France est déjà traversée par un débat sur faut-il ou non rester en Algérie en 1834, sachant qu'elle y est depuis 1830?
Oui, bien sûr, la France est divisée. Divisée sur le fait d'avoir une occupation totale d'un pays gigantesque, ou bien une occupation restreinte, c'est-à-dire occuper simplement les ports, les grands ports, donc le contrôle de la Méditerranée, dans une rivalité très importante avec la Grande-Bretagne. Donc il y a cette crainte aussi parce que, dans le fond, les Français connaissent mal ou peu ou pas du tout l'Algérie. Mmh. Il y a, disons, beaucoup de préjugés sur les pirates, ces monstres des mers. Il y a aussi beaucoup de clichés sur l'exotisme oriental, sur la barbarie, les ténèbres. D'ailleurs, on appelle cette région du monde la barbarie.
C'est de cette manière-là,
comme un pays.
Ah ouais.
C'est de cette manière-là qu'on caractérise cette terre qui, plus tard, disons, sera repris, ce mot, pour qualifier ceux que l'on va appeler les berbères.
Barbarie, berbère. T'as dit, ce pays, c'est quoi, avant 1830, l'Algérie?
L'Algérie, c'est effectivement un pays qui appartient à l'Empire ottoman, mais avec une régence qui est très largement autonome par rapport au sultan. Cette autonomie, le régent d'Alger, le Dey d'Alger, l'a hautement conquise d'ailleurs à la faveur de toute une série de batailles. Et c'est lui qui désigne les gouverneurs des provinces. Il y a en particulier le Bey de Constantine, Ahmed Bey. Et puis il y a le Dey de Mascara. Et puis il y a aussi le Bey de Tunis. Donc ce sont des provinces qui sont dirigées par des beys et qui appartiennent à l'administration ottomane qui prélève l'impôt, ce qui ne va pas d'ailleurs sans difficulté, dans la mesure où il y a quelquefois des famines, des résistances, des soulèvements contre le pouvoir du dey.
Alors je te propose de revenir le 14 juin 1830, il est environ 4 heures du matin, et un premier soldat français débarque à Sidi Ferrouche. Question toute simple, Benjamin Stora, pourquoi est-ce que la France se lance à ce moment-là dans la conquête de l'Algérie?
Il y a plusieurs raisons à cela, effectivement, d'envoyer une énorme armada. Il faut préciser qu'il y a plus de 103 navires de guerre, près de 40 000 hommes, 37 000 hommes, c'est colossal, c'est considérable. 4 000 chevaux qui sont embarqués, 5 hôpitaux, des hôpitaux de campagne qui sont prêts, disons, pour des interventions militaires, avec 300 lits pour chacun de ces hôpitaux. Et puis aussi, on a embarqué un corps d'interprètes, des anciens mamelouks, ceux qui avaient été dans l'expédition d'Égypte, c'était il n'y a pas très longtemps.
De Napoléon.
Bien sûr. Et puis aussi, des interprètes. Des interprètes juifs qui ont beaucoup voyagé entre les deux rives de la Méditerranée. Donc, c'est une véritable expédition qui est décidé par Charles X. Alors pourquoi? Bien d'abord,
Charles X qui est au pouvoir pour quelques jours seulement encore.
Encore
parce que bientôt il y a la révolution de juillet qui va le renverser.
Absolument, qu'on connaît tous évidemment puisqu'on a tous lu Victor Hugo. Évidemment sur cette révolution de 1830, Charles X qui en fait veut redorer son blason, qui veut retrouver un petit peu cette grandeur napoléonienne qui a disparu de France depuis 1815, comme on le sait. Et donc, il a cette idée, disons, de lever une armée d'Afrique. Et puis, il y a un fantasme qui court à l'époque, c'est celui du trésor d'Alger. C'est-à-dire qu'il y aurait effectivement beaucoup, beaucoup d'argent à Alger suite aux enlèvements des chrétiens lors des courses en mer. Alors, il y a aussi ce fantasme, hein, disons, des corsaires, des courses en mer, des esclaves chrétiens, femmes aussi, bien sûr, etc. Mais en 1830, ce qu'on appelle le commerce des, la course en mer est déjà en très, très, très nette diminution. En fait, la grande question fondamentale, c'est le commerce du blé.
Oui.
Et l'Algérie est un véritable grenier à blé, comme d'ailleurs c'était le cas dans l'Antiquité. Hein, sous Massinissa ou sous Jugurtha, déjà ce qu'on appelait la Numidie était déjà le grenier à blé de l'Empire romain. Pendant la Révolution française, les responsables français de cette époque avaient demandé effectivement aux deïs d'Alger, disons, une certaine somme d'argent pour pouvoir, disons, payer du blé. Cette somme d'argent avait transité d'ailleurs par l'intermédiaire de banquiers juifs, les Bakri Busna, qui étaient des grandes familles d'Algérie, avec d'autres grandes familles comme la famille Stora aussi, qui était une très grande famille.
Que tu connais bien ?
Que je connais très bien, bien sûr. Et qui commerçait entre les deux rives de la Méditerranée. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que la France tarde à rembourser, disons, le dey d'Alger. Donc, il y a cette espèce, disons, de va-et-vient permanent, perpétuel, disons, ce ballet diplomatique,
ouais,
où, sans arrêt, le dey convoque le consul général, qui s'appelle Pierre Deval, et à chaque fois, le consul trouve mille excuses pour ne pas précisément rembourser. C'est le fameux incident où le dey s'impatiente,
ouais,
devant le consul de France, et il lui donne un, ce qu'on appellera plus tard un coup d'éventail, en fait un coup de chasse-mouche. Et le consul, disons, s'est senti offensé et en a fait part à Charles X. Et naturellement, Charles X s'est emparé de ce prétexte.
C'est un prétexte.
C'est un prétexte, bien sûr, pour dire nous allons, à partir de ce simple coup d'éventail, envahir ce territoire considéré comme hostile. Et donc, c'est là qu'on va envoyer 103 navires de guerre, 40 000 hommes pour un coup d'éventail.
Et les hôpitaux pour un coup d'éventail, en tout cas pour un prétexte de coup d'éventail. Est-ce qu'il y a des formes de résistance très vite en Algérie lorsque les premiers soldats français arrivent sur le sol algérien ? Est-ce qu'il y a très vite des destructions ? Comment ça se déroule sur le terrain ?
Il y a d'abord une chose qu'il faut connaître, c'est que les Turcs ont riposté, ont résisté.
Oui, parce que c'était l'Empire ottoman.
Et c'était l'Empire ottoman. Ouais. Donc, lorsque les Français sont arrivés à Sidi Ferruch, en 1830, il y a eu des combats pour la prise de la ville d'Alger, et ces combats ont duré plusieurs semaines. Puis ensuite, le dey, a capitulé, et la capitulation du dey a entraîné, bien sûr, l'arrivée des Français et l'installation d'une administration, mais qui, dans le fond, cette administration française ne sait pas exactement quoi faire de ce territoire gigantesque. Pour l'heure, il s'agit essentiellement d'administrer la ville d'Alger qui compte déjà 30 000 habitants. Ce n'est pas une petite ville, la ville d'Alger. C'est une ville très importante.
J'ai lu que très vite, aussi, pour vaincre la résistance, l'armée française va détruire une partie assez rapidement du vieil Alger. Commence à y avoir très tôt des destructions, mais pour des raisons militaires.
C'est les raisons militaires, parce qu'Alger, c'est une grande capitale de toute cette bordure méditerranéenne, où se côtoient d'ailleurs, bien sûr, des musulmans, des descendants de Turcs et d'Algériens musulmans. J'emploierai volontairement le terme d'Algérien, même si ce n'était pas le terme utilisé à l'époque. Et donc, il y a aussi, naturellement, des gens de la communauté juive. Il y a des Koulouglis. Les Koulouglis, ce sont les descendants métissés des Turcs et des Algériens musulmans. Et puis, bien sûr, des gens de la Kabylie, toute proche, parce que la Kabylie est un territoire qui est très proche de la ville d'Alger. Donc, c'est une ville foisonnante, une ville de 30 000 habitants. Et lorsque les Français s'en emparent, décident effectivement d'en faire une ville fortifiée.
Ce qui est intéressant, c'est que j'ai commencé l'épisode avec Lamartine, qui en 1834, en gros, considère qu'il faut absolument poursuivre cette mission pour la gloire de la France, la gloire civilisatrice. Mais ce même Lamartine, en 1846, va dénoncer l'enfumage des grottes de Dara par Pélissier, lancé par le maréchal Bugeaud. Qu'est-ce que ça raconte de l'évolution de Lamartine et surtout de l'évolution sur le terrain ? Est-ce que l'armée française est allé au-delà de la simple conquête militaire. Parce que quand on écoute Lamartine, on a le sentiment, à l'époque déjà, qu'il y a des critiques sur la manière d'agir de l'armée française.
Effectivement, écoutons Lamartine le 10 juin 1846 à l'Assemblée nationale. Il déclare « Depuis 11 ans, on a renversé les maisons, incendié les récoltes, détruit les arbres, massacré les hommes, les femmes, les enfants, avec une fureur tous les jours croissante. Je pourrais vous parler d'autres actes qui ont fait frémir d'horreur et de pitié la France entière, les grottes du Dahra, où une tribu entière a été étouffé. Ça, c'est Lamartine qui dit cela. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
Étouffé, ça, c'est les mots de Bugeaud. Enfumez-les comme des renards. Que s'est-il passé à Dara en particulier ?
Alors, qu'est-ce qui s'est passé, effectivement, comme le dit Lamartine, entre les années 1830-32 et puis ces terribles années bien ? Il y a une modification. C'est la résistance de l'émir Abdelkader, à partir de 1832, qui va commencer à unifier l'ensemble des tribus en partant de l'ouest algérien, puis ensuite se dirigeant vers l'est, bien sûr. Le soulèvement de Ahmed Bey à Constantine, qui va résister, un siège d'une année en 1837. La ville de Constantine va tomber, une ville qui est située sur un rocher, une ville vertigineuse. Et puis, il y aura toute une série de résistances partout. Et donc, lorsque la France décide de changer de politique, et là, elle va nommer un personnage très important, qui est Bugeaud. Oui. Thomas Bugeaud, qui va être donc le gouverneur général. Et c'est à partir du moment où Bugeaud est désigné que le tour de la guerre va changer. Fini les discussions, les compromis. Par exemple, avec Abdelkader, il y avait eu des traités qui avaient été signés en 1834, en 1837. Là, c'est fini. Bugeaud dit maintenant, nous allons pratiquer une politique qui est très simple, les colonnes infernales. Les colonnes infernales, qui avait déjà d'ailleurs, par parenthèse, été expérimenté pendant la Révolution française en Vendée. Puis ensuite, encore en Vendée, par Saint-Arnaud en 1831. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des hommes qui pénètrent dans les villages, qui détruisent toutes les récoltes, qui brûlent le village et qui tuent ceux qui refusent de se rendre. Il n'y a pas de prisonniers. La pratique des colonnes infernales est absolument épouvantable. C'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une guerre totale.
Et en Algérie, la décapitation est souvent utilisé. Il y a aussi l'essoriement, les oreilles coupées, pour montrer à quel point on ne rigole pas avec l'armée française.
Ah non, c'est sûr. Lorsque, par exemple, Saint-Arnaud décrit son quotidien, dans de très nombreuses lettres qu'il a envoyées à sa famille, et qu'on peut lire d'ailleurs dans un livre qui a été édité par François Maspero, qui s'appelle « L'honneur perdu de Saint-Arnaud »,
absolument,
qui a été édité aux éditions Plomb en 1994, il dit la chose suivante, Saint-Arnaud, « On ravage, on brûle, on pille, on détruit les moissons et les arbres, et les journaux te donneront, puisqu'il l'écrit à sa fiancée, te donneront les tristes détails des extrémités cruelles où Pélissier, qui est un des officiers, a été obligé d'en venir pour soumettre les Ouled-Rias qui s'étaient réfugiés dans leur caverne. Le fanatisme est une horrible chose. Pélissier a employé tous les moyens, tous les raisonnements, toutes les sommations, mais il a dû agir avec rigueur. Et il rajoute, aurait-on préféré lire la colonne Pélissier à 200 hommes tués devant les grottes des Ouled-Rias et toute la population a pu s'échapper avec ses armes? C'est terrible, ces enfumades, parce que c'est un procédé où les habitants des villages s'étaient réfugiés dans
les grottes. Ouais.
Et devant ces grottes, on a disposé donc du bois qu'on a ensuite fait brûler. Et ceux qui refusaient de se rendre, disons, sont morts asphyxiés. Il y a eu des centaines et des centaines de morts en 1845.
Et des gens morts aussi brûlés vifs parfois. Ce qui est aussi intéressant, parce qu'il ne faut pas qu'on ait l'idée en écoutant tes propos et cet épisode, qu'il y aurait des gens hostiles à la colonisation. Les gens sont favorables à la colonisation de l'Algérie. C'est sur les modalités de l'action militaire que ça se joue le débat à l'époque.
Tout à fait. Il y a une idée qui est très répandue, naturellement sous Louis-Philippe, qui a remplacé Charles X, puis ensuite sous le Second Empire, avec Napoléon III. L'idée, c'est de répandre les lumières de la Révolution française et donc d'apporter la mission civilisatrice de la France. C'est ça la grande idée. C'est-à-dire qu'on n'a pas le sentiment d'arriver, disons, sur un territoire qui est déjà organisé. On a le sentiment que c'est un territoire vierge. J'ai fait souvent cette comparaison dans mon esprit, dans cette stratégie de conquête, avec ce qui s'était passé en même temps aux États-Unis, ce qu'on appelait la conquête de l'Ouest.
Oui.
C'est-à-dire qu'on a les soldats, on a effectivement des vagabonds, des aventuriers, des prostituées, des gens qui veulent faire de l'argent et qui vont aller s'installer et s'approprier des territoires qui ne sont pas les siens. Alors, il y a aussi des saint-simoniens, des fouriéristes, des socialistes.
Là, c'est des gens de gauche avec un idéal.
C'est la gauche, des républicains. Ouais, les républicains de 48, de 1848, eh bien, vont aller.
La Deuxième République.
Bien sûr, ils vont aller en Algérie. Certains vont essayer de créer des communautés, même. C'est des choses absolument incroyables. Mm. Parce qu'ils ont le sentiment que le terrain immense est vierge d'habitants. Ah, ils vont vite déchanter, bien sûr.
Et puis surtout, ils vont aussi déchanter, même, tu l'as raconté, hein, quand on dit un jardin acivilisé où il n'y avait rien. Tu racontes qu'il y avait du blé depuis l'Antiquité.
Bien sûr.
Et utilisé.
C'était déjà un paysage agricole très développé, bien entendu. Et donc, ils vont déchanter. Et ça va être très difficile. Et cette histoire, d'ailleurs, est magnifiquement racontée par Jules Roy dans un livre qui s'appelle Les Chevaux du Soleil. Mmh. Une sorte de fresque où il raconte effectivement ce qui s'est passé pour tous ces malheureux, pour tous ces gens qui viennent de France, mais aussi qui vont venir d'Italie, d'Espagne, de Malte, de Sicile.
C'est pour ça qu'on dira d'ailleurs les Européens. Quand on parlera des Occidentaux en Algérie, on ne dira pas que les Français, on dira toujours les Européens.
Tout à fait.
Et les Algériens. J'ai une toute dernière question pour achever cet épisode sur le bilan humain de la conquête de l'Algérie par la France. A-t-on une idée du nombre de morts du côté des soldats français et du côté des civils ou des combattants algériens, voire ottomans ?
C'est très difficile à évaluer parce qu'à l'époque, bien entendu, il n'y a pas d'état civil. Donc on ne peut pas savoir exactement ce qui s'est passé du nombre des victimes. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu énormément de victimes, bien sûr, du côté de l'armée française, qui a été victime des maladies, des malarias, des épidémies, etc. Un petit peu sur le modèle de ce qui s'était passé en Amérique latine, hein, pour les conquistadors. Mais aussi les populations civiles algériennes musulmanes. Il y a une décroissance incroyable démographique, des pertes de centaines de milliers de personnes, bien sûr, au plan démographique du côté des Algériens.
J'ai lu que Kamel Kateb, le démographe algérien, pointe plus de 800 000 Algériens morts de 1830 à 1871. Et puis on retiendra aussi peut-être pour la mémoire cette phrase de Victor Hugo, « L'armée faite féroce par l'Algérie ». Ça raconte aussi ce premier épisode et ces années douloureuses, vécues douloureusement aussi en métropole, de la conquête de l'Algérie par la France. Il nous reste à entrer dans un nouvel épisode, l'épisode de l'Algérie française. Ça, c'est à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. France-Algérie, anatomie d'une déchirure, est un podcast original de France Inter.